bonjour à tous et à chacun. Serge Receveur au microphone. J'ai vraiment un grand plaisir de vous saluer, vous qui êtes présents dans les salons de la librairie Mola, ainsi que ceux toujours plus nombreux qui nous écoutaient, nous réécoutaient en podcastant cette émission au travers du site mola.com. Ce soir, conférence exceptionnelle. Nous recevons Jacques Julliard afin qu'il nous entretienne de son ouvrage paru voilà quelques jours, « Les gauches françaises, 1762-2012, histoire politique et imaginaire », publié chez Flammarion. Cher Jacques Julliard, vous êtes agrégé d'histoire, fut directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de nombreux ouvrages historiques et essais politiques. Vous avez été directeur délégué de Nouvel Observateur, où vous donniez une chronique hebdomadaire. Vous quittez cet hebdomadaire pour rejoindre Marianne, où l'on vous lit toutes les semaines, mais on lit votre éditorial. À ce stade, je voudrais reprendre à mon compte l'avis de Jean-Louis Bourlange, commentant dans l'émission Esprit public de France Culture, recommandant la lecture de votre livre. Et j'ouvre les guillemets. Jacques Julliard, dont on connaît le talent du polémiste, la sensibilité du militant, la rigueur de l'historien, Jacques Julliard, c'est un monument. Ce livre, c'est du bon travail, c'est du très bon travail. Je ferme les guillemets, donc voilà. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, vous vous devez, je vous le dis, d'avoir cet ouvrage dans votre bibliothèque. Il sera considéré très vite comme un ouvrage de référence permettant une meilleure compréhension de l'histoire politique de notre pays. Jacques Julliard, votre modestie en souffrira, mais je veux quand même faire partie et faire part à l'assistance d'un message que j'ai eu ce matin de Mona Ozouf et qui me dit « Je suis dans l'admiration du livre de Jacques, à la fois brillant et savant. » Donc, vous voyez... vous avez l'assistance de tous vos amis à ce sujet. Dans votre introduction, vous précisez que ce livre ne constitue pas une histoire continue de la gauche, du milieu du XVIIIe siècle à nos jours, mais vous avez choisi de mettre l'accent sur les moments forts de cette histoire. Il est divisé par ce que vous appelez des moments. Alors, vous avez le XVIIIe siècle, le moment philosophique, 1789, le moment révolutionnaire, la monarchie censitaire ou le moment libéral, le moment républicain, le moment radical, l'entre-deux-guerres et après 1945, comme vous l'écrivez, à partir de ce moment, l'identité de la gauche se fait moins nette, pour conduire aux incertitudes et aux interrogations actuelles. On ne pourra pas traiter tous les sujets ce soir en l'espace de 30 minutes. Mais j'ajoute quand même que dans ce livre renferme une bibliographie exemplaire et des portraits croisés, Voltaire Rousseau, Robespierre Danton, Thiers Blanqui et d'autres. Pour débuter votre étude, vous la faites débuter 1762, le contrat social. Pourquoi ?
Pour deux raisons. D'abord, bonsoir à tous. Je suis content de me trouver ici. D'abord, merci à Serge Receveur, qui est un ami de longue date maintenant. Et c'est à son amitié que je dois l'organisation de cette rencontre de ce soir. Tout à fait, au moment où mon livre vient de paraître, je lui en suis très reconnaissant, comme je suis toujours reconnaissant, et de sa bienveillance, de son indulgence à mon égard. Et puis je voudrais dire d'un mot quand même, je ne vais rien vous apprendre sur la librairie Mola, mais si j'avais dû en choisir une seule en France, c'est évidemment à Bordeaux que je serais venu à cause de Mola, parce que, je le dis sans flagornerie à l'égard de cette maison, elle fait partie, je crois qu'il était question de monument il y a un instant, s'il y a un monument de la culture en France, dans le domaine de la librairie, c'est bien Mola. Conservez-la, aidez-la, parce que c'est véritablement, ça va bien au-delà de la distribution des livres. Je ne m'appesantis pas là-dessus, mais s'il n'y avait pas Mola à Bordeaux, s'il n'y avait pas Kléber à Strasbourg, le Furet du Nord à Lille, Bazin à Dijon, quelques-uns comme ça, eh bien nous serions beaucoup plus pauvres. Bon, je passe à mon sujet. Pourquoi 1762 ? Parce que ça faisait... Je me suis rendu compte, ça faisait une jolie tranche, ça faisait 250 ans pile que le contrat social avait été publié et que la gauche, sous la forme, en la personne de François Hollande, revenait au pouvoir. Donc ça faisait une belle tranche, un quart de millénaire, c'était pas mal. Et puis aussi, tout simplement, parce que si on devait citer un seul nom comme fondateur de la gauche en France, c'est évidemment celui de Rousseau. Il y en a d'autres qui pourraient se présenter à l'esprit. Je pense à Condorcet. Mais à la fin des fins, c'est le contrat social qui est à l'origine de ce que nous appelons la gauche. Je dirai dans un instant pourquoi. Vous m'avez facilité...
Je crois que vous avez un faible pour Condorcet.
J'ai un faible pour Condorcet, c'est-à-dire je lui fais la place qu'il mérite, c'est-à-dire que... Mais je vais y revenir dans un instant, je vais vous expliquer pourquoi. Mais je voudrais commencer en vous disant que ce livre, je l'ai fait en me servant de grands modèles. Quand on prend de grands modèles, on ne prétend pas se comparer à eux, encore moins leur faire concurrence, mais je crois qu'il faut essayer de s'inspirer de ce qui a été fait de mieux avant soi. Alors, cette scansion du livre, dans un certain nombre de moments, j'ai emprunté ça à Solzhenitsyn, c'est-à-dire lorsqu'il parle de nœuds, et il parle de nœuds dans l'histoire de la Russie et de l'Union soviétique moderne. J'ai essayé de faire des nœuds dans l'histoire de la gauche qui correspondaient, et chaque fois j'ai essayé de recentrer mon histoire, pas faire de la chronologie un peu bête, ça m'ennuie beaucoup, et je suis pas très bon, je sais pas très bien faire ça, mais autour d'un problème fondamental. Il est évident que le XVIIIe siècle, c'est la création des droits de l'homme tels que nous les ressentons aujourd'hui. La Révolution, c'est même pas la peine de la décrire, et c'est l'acte 1 de cette gauche française, ou plus exactement, je n'ai jamais prétendu que la Révolution est de gauche. Ce que j'ai prétendu, c'est que la gauche avait fait une, pardonnez-moi l'expression, une OPA sur la Révolution française. Et la conséquence a été que depuis cette époque, la gauche s'est trouvée en situation de légitimité idéologique en France. La droite, depuis la Révolution française, c'est la non-gauche. C'est la gauche moins 10% ou moins 20%. Enfin, on peut prendre le pourcentage qu'on voudra. Ce que je veux dire, c'est alors que la droite occupe la primauté du point de vue social, la société française est plutôt de droite, mais la société intellectuelle est plutôt de gauche. Et ça, c'est la Révolution. Je passe sur les étapes, l'étape parlementaire avec la monarchie de Juillet et la Restauration d'ailleurs, l'étape républicaine, ensuite le nœud républicain, qui commence avec la Deuxième République et qui atteint sa perfection avec la Troisième, avant 1914, qui a aujourd'hui une forte nostalgie de ça. Et puis après, les choses, il y a encore l'étape radicale, au sens des radicaux de la Troisième République, les choses se déglinguent un peu, en effet. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. En tout cas, ça a été la première chose pour essayer de donner à ce livre une sorte de rythme. Le deuxième auteur dont je me suis inspiré, c'est évidemment René Raymond. Je l'ai déjà dit, il avait fait une histoire des droites. J'ai essayé de faire l'équivalent. heureusement, vous savez, il m'a beaucoup inspiré, il m'a beaucoup embêté, Raymond, parce que ce modèle était très présent, très prégnant. En plus, moi, je n'étais pas tout à fait d'accord avec lui. J'ai toujours pensé qu'il y avait quatre droites et que Raymond, par une étrange aberration, je dis ça avec l'admiration et l'amitié que j'ai toujours eue pour lui, avait oublié sa propre famille, c'est-à-dire la démocratie chrétienne. Et il n'était pas présent dans ses droites. Alors, je ne sais pas très bien où il la mettait, mais il y a un petit mystère, là. Toujours est-il, c'est que moi, j'ai trouvé quatre droites, je vais y revenir. Mais c'est à Raymond que je le dois. Quatre droites, ça ne veut pas dire des partis, hein. Ça veut dire des cultures. Les partis, ça m'intéresse médiocrement. D'abord, ça change toujours, puis il n'en sort rien. Si je veux prendre un exemple à droite, le parti gaulliste, le parti fondé sous les auspices du général de Gaulle. Il a changé 6 ou 7 fois de nom depuis. Maintenant, il s'appelle l'UMP, il s'est appelé l'URPR, l'UDF, l'UD5M, etc. Quel intérêt ? En revanche, les familles, ce sont des invariants. Les familles, les grandes familles, c'est comme les grandes équipes de, moi je dis de rugby. Elles ne meurent jamais. Elles ne meurent jamais. Je prends le cas d'une des familles que j'ai voulu, à qui j'ai voulu donner sa place, la famille libertaire et anarchiste. Il y a des moments, elle disparaît complètement. À d'autres moments, elle occupe tout l'espace. En 68, il n'y avait plus que des libertaires dans les rues. Alors, vous savez, c'est comme ces rivières de mon pays, du Jura, qui disparaissent et puis qui réapparaissent un peu plus loin. Il y a un passage souterrain, elles réapparaissent. Bref. J'ai distingué 4 familles. Les libéraux, c'est la seule famille qui a un pied à droite et un pied à gauche. Il y a un libéralisme de droite, ce que Raymond appelait les orléanistes. Il ne faut pas que je me laisse emballer. Et,
vous rappellerai à l'ordre,
et puis,
ne vous inquiétez pas.
Une demi-famille, en quelque sorte, de gauche, représentée à un moment donné par la deuxième gauche, bref, par des gens qui se réclament du libéralisme économique tout en étant de gauche. C'était le cas, à bien des égards, de Michel Rocard. C'est aussi...
Dont vous étiez approchant.
Dont j'étais proche à l'époque, même si j'ai rompu un peu avec eux, parce que je trouvais qu'on s'est fait... On s'est fait un petit peu filouter. Enfin, ça nous mènerait trop loin. La deuxième famille... C'est une création ex nihilo de la France. La famille jacobine, vous pouvez les chercher, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Peut-être un peu au Mexique, qui a la même tradition d'anticléricalisme révolutionnaire que nous. Mais grosso modo, comme l'a bien montré Furet, le jacobinisme, c'est une création de la Révolution française. C'est un mot qu'on n'arrive pas à traduire en allemand ou en anglais. Parce qu'il dit Kézako, enfin, qu'est-ce que c'est que cette famille qui est pour l'État, qui ignore un petit peu la société, mais qui est profondément individualiste, c'est vraiment une création. La troisième famille, c'est celle que j'ai appelée collectiviste. Je ne l'ai pas appelée socialiste, parce que socialiste, ça désigne successivement des partis. La famille collectiviste, elle regroupe, suivant les moments, ceux qu'on appelle les socialistes, encore aujourd'hui, sociodémocrates, etc., et ceux qu'on appelle communistes, qui à un moment donné ont été les communistes. Et peut-être d'ailleurs qu'on est en train de vivre aujourd'hui, dans le moyen terme, sur les 30 ans à venir, une sorte de congrès de Tours à l'envers, c'est-à-dire une réunification de cette famille, vous savez, entre Paul Laurent et puis Marie-Thérèse Lindemann. Il n'y a pas des fossés immenses, hein, bon. Et enfin, la quatrième famille, j'en ai parlé, c'est la famille libertaire. Bon, je me hâte vers mon second point. Voilà comment je suis donc arrivé à cette conclusion que la France vit sur 8 familles politiques, hein, puisque je me suis permis de rajouter à Raymond sa famille démocrate-chrétienne, qui le mérite, hein, qui a vraiment sa raison d'être, qui existe encore, même sous des formes, même si François Bayrou n'est pas exactement un démocrate-chrétien, c'est quand même là-dedans qu'il plonge ses racines, et croyez bien que comme les rivières comme l'Ouche de mon Jura natal, ça réapparaît toujours d'une manière ou d'une autre.
Quoique Jacques sévère, hein. Page 196, vous dites « Le centre n'est guère autre chose qu'une droite qui ne s'aime pas ».
Oui, oui, c'est vrai. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de centre.
C'est quand même un jugement sévère.
Ce n'est pas un jugement sévère. Je m'en suis expliqué. Il ne m'a jamais pardonné, François Bayrou. Je lui ai dit « J'ai de très bonnes relations avec lui, mais plus maintenant, parce qu'il était fâché de ce que j'ai dit. » Je lui ai dit « Tu es à la tête d'un parti qui n'existe pas. » Vous savez, c'est comme ce héros de Le Chevalier inexistant,
oui, oui.
Hein, d'Italo Calvino. C'est le parti inexistant. Voyez, à l'heure actuelle, ils se battent, ils ont passé leur temps à dire « Ah, il y a le centre du centre, le centre de droite, le centre de gauche. » En réalité, quand on gouverne, il faut choisir. Et le drame du centre, dans lequel je compte de nombreux amis et pour lequel j'ai de la sympathie, c'est qu'ils n'arrivent pas à choisir et qu'ils n'arrivent pas à prospérer comme famille, proprement dit, même s'il existe. Hein. La deuxième chose que j'ai voulu faire, c'est tout simplement définir la gauche. Alors, faut-il le faire avant d'avoir écrit? C'est plus prudent. Après, c'est plus difficile. Mais en gros, je suis arrivé à trois définitions que je vous soumets. La première, c'est laquelle je tiens le plus, parce que c'est peut-être la plus spécifique. La gauche, c'est l'idée de l'alliance entre le progrès et l'idée de justice. L'idée de progrès et l'idée de justice. L'idée de progrès est une idée scientifique, l'idée de justice est une idée sociale. Enlever un de ces deux éléments, la gauche disparaît. Oh, je ne dis pas que tous les hommes de gauche sont des hommes de progrès, et encore moins de justice. Je dis que l'idéal dont ils se réclament, et qui permet de les définir, et d'ailleurs de les mettre devant leurs contradictions, le cas échéant, c'est cette idée-là. Et l'homme qui a le mieux... C'est pour ça que je parlais de Condorcet. Que dit Condorcet? Dans ce formidable optimisme de la fin du XVIIIe, il écrit ça quelques semaines avant de mourir. On ne sait pas très bien s'il s'est suicidé, si... Bref, il était de toute manière menacé de mort par la Convention. Il écrit ce livre sur le progrès où il affirme sa conviction que le progrès scientifique produira le progrès technique. C'est vrai, c'est de plus en plus vrai. Le progrès technique produira le progrès économique, le progrès du bien-être. C'est vrai aussi. Les hommes vivent moins malheureux qu'aux siècles anciens. Et le progrès scientifique, technique, matériel, va produire le progrès moral. Alors ça, on n'y croit plus. Ça, on n'y croit plus. Depuis Auschwitz, on ne peut plus croire que le progrès matériel, dont l'Allemagne du début du XXe siècle, progrès scientifique, technique, moral, dont l'Allemagne était l'exemple le plus brillant, ça donne Auschwitz. Alors là, il y a quelque chose qui, dans le mode de raisonnement de la gauche, a été faussé. J'ai même consacré un livre à cette petite question, si j'ose dire. J'ai dit un jour à un ami... Il faudrait que la gauche se réconcilie avec Pascal. Il faudrait que la gauche admette que le mal existe, que ce n'est pas simplement une idée, que ce n'est pas simplement un manque de connaissances, un manque d'organisation. C'est quelque chose... Il y a un mal radical. Nous savons ça. Et donc, voyez combien cette définition de la gauche, elle est toujours vraie. Le progrès existe toujours. Mais nous n'attendons plus de lui ce qu'en attendait Condorcet ou Victor Hugo ou Lamartine, voilà. Ou Gambetta, enfin tous les grands ancêtres. Voilà la première chose. La deuxième définition, elle est classique, c'est celle qui remonte à Rousseau. La gauche, c'est le parti qui a pris à son compte la formidable révolution de 89, pas de 93, hein, de 89, la substitution de la souveraineté populaire à la souveraineté monarchique. Certains auraient dit la souveraineté de Dieu, même. Mais enfin, c'est le parti de la souveraineté populaire. Sur ces deux points, à bien des égards, On l'a vu lors du bicentenaire de la Révolution. La droite a rattrapé la gauche, ou plus exactement, elle s'est inscrite dans ce sillage. On a célébré la Révolution française d'une manière quasi unanime. Et quasi unanimement, on a tiré le rideau sur 93. Lorsque Clémenceau disait que la Révolution est un bloc, lui-même n'y croyait pas.
Ne croyait pas.
Je crois qu'il n'y croyait pas. Mais enfin, c'était pour embêter les curés. Et la troisième définition, c'est que la gauche, c'est le parti de l'individu. Alors, on dirait, c'est curieux. Je croyais le contraire. Et pourtant, lorsqu'en 89, la Révolution produit ses effets, c'est la révolution de l'individu contre toutes les formes de collectivisme d'Ancien Régime, qui s'appelait la famille, la corporation, l'État, monarchie, etc. C'est la révolution de l'individu. Lisez la Déclaration des droits de l'homme, il n'est question que de l'individu, et pas de, ou très peu, de la famille, des corporations, etc. Et seulement, il s'est produit une chose, c'est que au milieu du XIXe siècle, la gauche, qui est une idée, véhiculée par des bourgeois à l'époque, rencontre le prolétariat et des formes d'organisation non pas individualistes, mais collectivistes, collectives. Et c'est ça qui change complètement tout. À partir des années 1850, la gauche devient le parti du collectif, de celui qui dit il y a des classes sociales, il y a des syndicats, il y a des partis, etc. Et pour terminer mon cycle, nous sommes de nouveau entrés dans un cycle où la gauche est redevenue individualiste. Vous voyez toutes les grandes questions qui sont discutées aujourd'hui. Je ne me prononce pas. Mais à propos de la sexualité, à propos du droit des individus, des enfants, etc., tout ça est marqué de nouveau du coin de l'individualisme, comme si le collectivisme qui avait marqué la décennie 1850-1950, en gros, était en train de se terminer. Voilà, je crois, comment j'essaye de définir la gauche. Et comme je vois que le temps presse, je voudrais terminer sur un troisième point. C'est ce que nous avons recueilli, ce qui reste de ce grand combat. J'ai parlé de la gauche. Pour gagner du temps, je n'ai pas parlé de la droite. Mais on ne peut pas parler de la gauche sans parler de la droite.
Autrement enfin, dit, vous parlez quand même des gauches.
Des gauches.
Parce que ce qui est important dans ce livre, c'est la reconnaissance, c'est qu'il y a des gauches. Parce que dans l'esprit de tous les gens, on parle de la gauche. Mais vous avez soulevé en train de dire, non, il y a des gauches.
Et vous savez, Raymond a fait le même itinéraire que moi. Son livre, la première édition, s'appelait Histoire de la droite en France. Et puis quand il l'a remanié, 20 ans après, ou je ne sais pas combien, 20 ou 25 ans après, il appelait Histoire des droites en France. Parce qu'il a conclu, comme moi à propos des gauches, que les différences étaient essentielles. Reste pourtant que je crois que la plupart des individus sont latéralisés, comme on dit en psychologie. C'est-à-dire que nous sommes droitiers ou gauchers dès la naissance. Il y a des gauchers contrariés, il y a des choses comme ça. Mais grosso modo, nous sommes latéralisés. Et longtemps, il a fait partie de notre patrimoine génétique d'être politiquement latéralisés. Alors, une des questions qui se pose, c'est de savoir si c'est toujours vrai. Parce que, voilà. Je le dis au passage, ça mériterait un très long développement. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui pensent que la différence entre la gauche et la droite est en train de s'amoindrir, sinon de disparaître. Et autrefois, c'est une remarque célèbre du philosophe Alain, quelqu'un qui disait cela était un homme de droite. Et aujourd'hui, ça peut être un homme de gauche. C'est ça la grande différence qui veut dire que la perception que nous avons de ces entités politiques est en train de changer. Je ne crois pas qu'elles disparaîtront du tout. Ça n'est pas parce que l'écart se restreint qu'il n'est pas essentiel. Moi, j'ai entendu pendant 20 ans dire, oh, vous savez, aux États-Unis, les démocrates et les républicains, c'est la même chose. Eh bien non, c'est pas la même chose. Non. Ça continue d'organiser le champ politique américain d'une manière parfaitement efficace et parfaitement claire pour le public américain. Et comme la démocratie est fondée sur l'alternance, eh bien, cette distinction de la gauche et de la droite, non seulement est inscrite dans, j'allais dire, dans nos gènes, c'est trop dire, mais enfin, dans nos habitudes mentales, mais en même temps, est inscrite dans notre Constitution. L'élection du président de la République au suffrage universel, qui ne retient que deux candidats au deuxième tour, est évidemment facteur de bipartisme. Et ça, aux grandes dames de mon ami François Bayrou, évidemment.
Bien sûr. Bon. Et même des socialistes qui s'en sont méfiés pendant longtemps.
Ah, pendant longtemps, jusqu'au jour où ils se sont aperçus que c'était pour eux le seul moyen d'arriver au pouvoir.
Exact.
C'est ce que moi, je le tiens de... Il m'est arrivé d'en parler avec Mitterrand lui-même. Il m'a dit « Oh, j'aime pas trop cette Constitution, etc. » J'ai dit « Monsieur le Président, vous savez très bien que sans elle, vous ne serez pas arrivé au pouvoir. » « D'accord, disait-il, là-dessus, vous avez raison. »
Mais même le problème de la longévité des gouvernements, c'était pareil. On se méfiait en train de dire « Ah non, il ne faut pas que les gouvernements soient trop importants et trop d'importance. »
Bien sûr, bien sûr. Alors... La Révolution a créé les problèmes qui ont servi de champ pour l'affrontement pendant un siècle et demi entre la gauche et la droite. Ces problèmes, c'était un, la forme du régime, monarchie ou république, peut-être même empire, au XIXe siècle. Deux, c'était la question religieuse. On est un des rares pays au monde, toujours avec le Mexique, hein, mais on est un des rares pays au monde où la question religieuse est devenue tout entière une question politique, pendant tout le XIXe siècle. Et troisièmement, la question sociale, qui en France a pris une allure très radicale, c'est-à-dire c'était le capitalisme comme ensemble et le socialisme comme ensemble. Or, sous la période gaullienne, ces trois problèmes ont changé de nature. D'abord parce que, qu'on le veuille ou non, la constitution de la Ve République a été acceptée par le peuple français. Et de manière durable. Quelqu'un qui voudrait aujourd'hui retirer aux Français le droit de désigner le président de la République se ferait jeter dehors.
Bien sûr.
Parce que si...
On ne peut pas revenir là-dessus.
On ne reviendra pas là-dessus. Donc... Alors, naturellement, on peut bricoler la Constitution. Moi, je suis pour la suppression du Premier ministre. Mais parce qu'on s'aperçoit bien... Les
bricolages de Constitution, il y en a déjà suffisamment.
Eux aussi, ils font un métier qui n'existe pas. Et c'est ça, leur problème. Bon, mais c'est secondaire, finalement. C'est secondaire. L'essentiel, c'est la présidence de la République, l'élection du président, etc. C'est un problème réglé. Et on s'est battu un siècle et demi là-dessus. Deuxième problème, problème religieux. Alors là, on ne s'est pas battu, pardonnez-moi l'expression, on s'est tabassé littéralement pendant un siècle et demi.
Écharpé.
Écharpé, voilà, pendant un siècle et demi. Or, la question religieuse s'était tout de même réduite à une question scolaire. Et la loi Debré, très mal accueillie par la gauche, a réglé la question scolaire en France. Il y a des problèmes encore mineurs. Mais aujourd'hui, personne ne remet en cause, au fond, l'ensemble du système que représente la loi Debré, c'est-à-dire l'intégration de l'enseignement privé dans l'enseignement public, tout en conservant son caractère propre. Je ne dirais pas que la question sociale, qui est la troisième question que nous a léguée la Révolution, a disparu. Ce serait absurde. Mais elle n'est plus aussi manichéenne que dans le passé. Là, ce n'est pas le mérite de Gaulle. C'est la chute de... C'est la déstalinisation, la chute du mur de Berlin, qui ont fait que capitalisme et socialisme cessent d'apparaître à nos contemporains comme des entités indépendantes qu'on pourrait changer, comme on change un moteur, comme on fait un échange standard du moteur d'une voiture. Ça n'est plus comme ça. Le social, c'est devenu un curseur sur une ligne continue. Donc, ça a changé de nature. Alors, est-ce que... Et c'est là-dessus que je termine. Est-ce que la gauche et la droite ont perdu leur repère traditionnel? Oui, sauf qu'ils en ont trouvé d'autres. Ce qui prouve qu'il y a une espèce de renouvellement. Ce ne sont pas les problèmes qui créent le clivage, c'est le clivage qui crée de nouveaux problèmes. Alors, quels sont ces problèmes? Premièrement, il y a ce que j'appelle le libéralisme moral. Le fait que la droite est libérale en économie et plus dirigiste en matière de mœurs, et que la gauche, c'est exactement l'inverse. Elle est libérale en matière de mœurs et dirigiste en économie.
Dirigiste, hein,
c'est
bien sûr.
Un assez joli casque. Donc, c'est devenu même un des clivages principaux. Le deuxième, c'est la question de l'ingérence internationale. Faut-il en rester à des nations souveraines, indépendantes, ou faut-il aller vers des ensembles plus larges? Est-ce qu'on a le droit d'intervenir dans un pays souverain lorsque le souverain lui-même persécute ses populations? Je ne dis pas que le clivage entre la gauche et la droite est aussi clair qu'en matière de mœurs. Mais enfin, le droit d'ingérence est une idée de gauche. Du temps où Kouchner était à gauche, c'est lui qui l'a inventé. Quoi. Après, il l'a un tout petit peu transporté à droite.
Moi, il l'a transporté à droite.
Je m'en suis beaucoup réjoui. Hein, une bonne idée mais reste une bonne idée, même si elle change de camp. Hein. C'est vraiment pas un problème. Bon. Troisièmement, il y a l'environnement, un problème très curieux. Hein. Pourquoi les Verts sont-ils rouges, si j'ose dire? Normalement, la gauche est le parti du changement. Et la droite, le parti de la conservation. Un parti comme les Verts qui prône la conservation aurait dû tomber à droite. Moi, je m'attendais à ce qu'il tombe à droite. Il est tombé à gauche pour des raisons qu'on pourrait longuement discuter, parce que c'est de moins en moins un parti environnemental et de plus en plus un parti radical. Et ils sont plus proches de Mélenchon que de Hollande sur bien des problèmes. C'est autre chose. Mais l'environnement est un de ces problèmes. Et enfin, il y a eu, et c'est vraiment la conclusion de ma conclusion, il y a eu depuis 25 ans une modification profonde dans le capitalisme. Un retour en arrière sans précédent. Nous étions allés d'un capitalisme, appelons-le sauvage pour faire vite, à un capitalisme de plus en plus policé, collaborant avec l'État et avec les syndicats. Ça nous a donné une des périodes bénies de l'histoire de France, les Trente Glorieuses, où l'État, les patrons, les ouvriers négociaient sans arrêt entre eux. Ça se faisait dans le cadre du plan, et moi je trouvais ça très bien.
Oui, nous, on en a parlé de la direction du plan, mais qui n'existe plus.
Et or, le retour du système que Michel Albert appelle Rhénan au système venu des États-Unis, qui est un capitalisme non plus de gestionnaire, mais de propriétaire, un capitalisme patrimonial, a rendu au capitalisme son côté sauvage, il n'y a qu'à voir le comportement des banques, qu'il avait perdu. Et ça a radicalisé à nouveau une grande partie de la gauche, et pas seulement la gauche extrême, mais même la gauche modérée, sur un problème qu'on croyait un petit peu dépassé. C'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, que la deuxième gauche qui avait fait ce pari, et qu'il a réussi magnifiquement pendant les Trente Glorieuses, a eu beaucoup plus de mal dans la dernière période. Ce n'est pas Mélenchon qui réinvente la lutte de classe. Ce sont les banques américaines. c'est Lehman Brothers, c'est quelques banques comme ça. Exact. Le reste est, enfin, à mon avis, une conséquence. Voilà, j'en termine. Bon, ce livre, si j'avais une heure devant moi, je vous ferais la critique de ce livre. Il a plein de défauts. J'espère que vous voudrez vous-même vous en rendre compte. C'est tout ce que je souhaite. Et il est évident que le livre dont je rêvais, et il aurait fallu 500 pages de plus. Rassurez-vous, j'en ai coupé 300. Vous avez échappé, pour ceux qui voudront le lire, à 300 pages. Mais il y a 500 qu'il faudrait rajouter. Ce sera peut-être pour une autre fois. Je vous remercie.